Alors, vous voyez le titre, Qui est notre ami? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Gaudens, ça date un peu maintenant, mais c'est des humoristes qui ont fait un sketch sur Face de Book, Facebook. Et à un moment donné, alors si vous avez le temps, à un moment donné, vous pourrez prendre le temps de regarder. Et c'est donc deux personnes qui parlent, et puis y en a une qui dit, oh ben, j'ai plein d'amis sur Face de Book. J'ai l'autre qui dit, mais qu'est-ce que c'est Facebook? Ah, alors comment t'expliquer? Bah, tu vois le repas de village qu'on a où on est tous ensemble en train de partager des saucisses et puis en train de discuter et puis tu vois? Ouais, je vois bien. Eh ben, c'est tout pareil, sans les saucisses, sans les amis et sans tous les contacts. Ah bon? Ouais, ils sont tous en virtuel. Et là, c'est un peu la question de ce matin, qui est notre ami? Et pour ce faire, je vais prendre un épisode qui se situe dans le jardin d'Éden et qu'on peut trouver dans Genèse 2. Alors, ça c'est pour le contexte 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Ça, c'est pour le contexte. On voit que Adam et Ève sont dans une situation privilégiée. Ils ont une relation directe avec Dieu. Dieu prend soin d'Adam et de Ève qui l'a rejoint. Ils sont en paix avec les animaux. Ils dominent sur eux. Ils ont accès à tout dans le jardin d'Éden. Ils peuvent manger de tous les fruits, sauf celui de la détermination du mal. L'homme et la femme sont dans une relation privilégiée aussi, l'un avec l'autre, et ils sont nus, ils n'éprouvent aucune honte. Et voilà, ça c'est le contexte du jardin d'Éden. Alors, il y a ce fruit de la détermination du bien et du mal. On a du mal à s'imaginer ce que serait notre vie sans cette connaissance du bien et du mal. C'est là toute notre faiblesse, hein, finalement, la connaissance du bien et du mal. Mais on y reviendra plus tard. Alors, si on fait le parallèle avec notre situation personnelle, nous avons peut-être des périodes où ça va plutôt bien. Où on a l'impression de tout maîtriser. Ben, on a notre travail, on a notre famille ou nos amis, nos relations, le cadre est bien défini, on a notre église aussi peut-être, des moments avec Dieu, et on ne joue pas avec le cadre, parce que il est bien défini, on est dans notre zone donc de confort. Alors, la question c'est, moi j'ai peut-être un jardin d'Éden qui va être le mien, lié à mon environnement, mais la question c'est, quel est votre jardin d'Éden? Quelle est votre zone de confort? Celle où vous vous sentez à l'aise, où il n'y a rien qui vient vous perturber? Est-ce que c'est prière, jardin, sieste, promenade, église? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo, vacances pour oublier le boulot? Bon, pas forcément très idyllique, mais ça peut être notre jardin d'Éden. Peu importe quel est notre jardin d'Éden, c'est cet endroit où on se sent bien et où on a l'impression de tout maîtriser. Mais vous connaissez tous l'histoire du jardin d'Éden, il y a un grain de sable. Quand tout va bien et qu'on croit que tout est sous contrôle, qu'on croit tout pouvoir maîtriser, il y a souvent quelque chose qui vient, un grain de sable, qui vient perturber la stabilité de la situation. Et ici, c'est Satan. Ouais, si on voit quand même hein, le serpent qui se cache, ben, qui vient ici parler à Ève. Et on trouve ce passage dans Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment ? Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal. » Satan vient en ami, il fait son surpris. « Ah bon ? Vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» On pourrait presque rajouter, mais... Dieu vous a donné le pouvoir sur tout ce qu'il a créé, finalement. Non, c'est, j'ai mal compris ou je suis vraiment surpris, hein. Il fait son naïf. Et puis là, on se dit, mais est-ce qu'on n'a jamais entendu ce genre de paroles? Alors peut-être pas à nous, mais presque sûr qu'on a déjà entendu. Ou peut-être à d'autres. Ah bon? Tu n'as pas été choisi pour faire ça alors que tu es largement meilleur que celui qui a été choisi. Surprenant. Ah bon ? Ta femme ne reconnaît pas que tu es un homme attentionné et doux ? Ah bon ? Ton mari ne reconnaît pas que tu es une jolie femme pleine de talent ? Je suis sûr que vous avez en tête plein d'autres situations de ce genre auxquelles viennent s'ajouter la petite voix intérieure, qui a la même origine que celle que Ève a entendue. C'est un exemple, mais je pense qu'on en a plein d'autres. Ah bon ? En tant que chrétien, on n'a pas le droit de faire ci ou ça ? On n'est pas maître, tout n'est pas créé pour que ça soit bon pour l'homme ? Qui a déjà entendu cette petite voix ? Ah, merci, il y en a quelques-uns. Je suis rassuré. Parce que je pense que cette petite voix-là, moi je l'entends tous les jours. Pour plein de... Ça peut être pour l'argent, ça peut être pour des personnes qu'on croise. Alors, moi, en l'occurrence, des femmes que je pourrais croiser, que je croise, qui pourraient attirer mon regard. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au mensonge, par rapport à la notion de vérité. Toutes ces voies-là qui passent et qui doivent passer dans notre scanner de c'est bien ou c'est pas bien. Ouf ! Heureusement, notre sagesse est là pour nous préserver. Ève répond à Satan, « Eh bien oui, nous pouvons manger de tout, sauf de cet arbre au milieu du jardin, car si nous en mangeons, nous mourrons. » Heureusement, il y a le cadre qui a été donné. Ève le connaît bien, elle peut clairement le nommer, le citer, et elle sait pertinemment les conséquences de ses actes si elle mangeait du fruit. Et c'est bien ce qui se passe aussi dans notre tête. La sagesse nous rappelle les conséquences de nos actes. Et nous sommes droits dans nos bottes, nous maîtrisons la situation. Mais attention, car il y a le passage de la deuxième lame. Satan dit, mais non, vous ne mourrez pas. Dieu en fait toute une montagne. C'est juste que si vous en mangez, vous serez comme lui, décidant de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et c'est là où Satan, il est très fort. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou pas ? Eh oui, Eh oui, si on va un peu plus loin dans Genèse, Dieu dira plus tard, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien ou du mal, et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Satan, il n'a pas dit une bêtise, hein. Il a dit la vérité. Sauf que, évidemment, on le sait, il a oublié une bonne partie des conséquences associées à cette connaissance du bien et du mal et de ce que ça générerait. L'homme deviendrait l'égal à Dieu en mangeant du fruit. Il se concentre sur le point positif, être semblable à Dieu. Et la question, ça c'était peut-être le seul point où il pouvait, approcher Ève. Ils avaient accès à tout. La seule chose auquel ils n'avaient pas accès, c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la corde sensible d'Adam et Ève. La question est de savoir quelle est notre corde sensible. Et nous n'avons pas tous les mêmes. Pour les uns, ça peut être l'alcool, les femmes, les jeux. D'autres, ça va être l'estime de soi, le regard, la peur du regard des autres, l'argent. Et la liste, elle est infinie. Alors, en préparant, j'ai eu... ça m'est arrivé, c'était la semaine dernière. Comme quoi, on peut, des fois, dans certaines situations, être confronté à des choix. J'étais chez Point P et je devais acheter du matériel. J'avais eu un devis. Et puis, quand Priscille avait appelé le matin pour savoir s'il y avait une livraison ou pas prévue, ça durait depuis un moment, Priscille dit, la livraison, le vendeur nous a dit que c'était qui nous l'offrait. Sauf que c'était pas marqué dans la facture. Il dit non, c'était un autre vendeur. Il dit moi je peux pas le faire, c'est pas puis l'autre vendeur n'est pas là. Passer cet après-midi. Donc j'y vais. Alors, il a fait plein de manips pour essayer d'intégrer le prix du transport, parce qu'entre-temps, il avait eu son collègue qui était en arrêt, qui lui avait dit « Oui, j'ai bien pris en compte, c'est bien offert. » Alors, il a fait des manips, il a fait plein de manips dans le calcul, et puis à la fin, il me sort un chiffre, et il manquait 200 euros. C'est pas rien, hein ? Puis là, il y a la petite voix qui se dit « Bon, après tout, c'est lui qui s'est trompé. » Ouais, c'est facile, parce que quand nous, on se trompe, on va tout de suite voir la caissière, le caissier, pour dire « vous vous êtes trompé ». Et donc là, je me suis dit « bon, si ça marche dans un sens, il faut que ça marche aussi dans l'autre sens ». Donc, je lui ai dit « alors, mais malgré tout, on se dit « on sait jamais hein, », je pense que vous êtes trompé, qu'il manque 200 euros. Mais après, si vous voulez m'en faire cadeau, je ne suis pas contre. Bon, il a refait ses calculs, il a passé un moment dessus, puis après il dit, avec toutes les manips que j'ai fait, j'ai compté deux fois l'avoir qu'on avait fait à la commande. Mais tout ça pour dire que, voilà, ça c'est un exemple. Mais combien de fois par jour on a ce genre de petites tentations, de petites situations qui font que on pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Avec toujours ce message subliminal, la conséquence n'est pas aussi grave qu'on veut bien te le faire croire. Et puis, nous, on a la connaissance du bien et du mal, on est un peu comme Dieu, on gère, on maîtrise. Mais bon, c'est là que ça se complique quand même, parce que quand on lit Genèse 6 et 7, « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Ça fait beaucoup de choses positives, hein, quand même. « Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Ah, ce foutu regard, aux capacités extraordinaires, capable de discerner d'infimes détails. Alors, je travaille dans l'automobile et je peux vous dire que quand on regarde les voitures, c'est incroyable de voir des fois sur ce qu'on appelle des jeux entre une porte et une aile, entre un affleurement, entre des pièces. Les détails qu'on arrive à voir avec l'œil, qui sont confirmés après avec une mesure. Mais dès qu'il y a un défaut, l'œil arrive à le percevoir. Et il est capable de discerner ces d'infimes détails, mais il est aussi capable de laisser rentrer tout ce qu'il y a autour de nous, forcément. Il est la porte entre le monde extérieur et notre être intérieur. Et Satan, il a réussi à semer le doute, à ouvrir la porte. Beau, bon, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça fait beaucoup de choses intéressantes pour un seul objet quand même. Et tous les leviers manipulés en transformant la vérité, hein, puisqu'il n'a pas dit de mensonge, mais il l'a transformé ou a occulté quelques points, sont bons à être utilisés. La convoitise. Adam et Ève, on vient de le voir, le fruit a l'air bon, il est beau à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On connaît aussi l'exemple de David avec Bathsheba. L'orgueil. Adam et Ève aussi. Le fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah ouais, on pourrait être comme Dieu. Intéressant. La jalousie. Caïn et Abel. Dieu a préféré le sacrifice de mon frère. La souffrance. Job, si tu souffres, c'est la faute de Dieu. Le chantage. Jésus, si tu descends de la croix maintenant, nous croirons en toi. Le rejet. Les pharisiens, ils rejettent tous ceux qui sont différents et qui ne font pas le bien à leurs yeux. La peur, Saül, j'ai eu peur que les soldats m'abandonnent si je ne faisais pas le sacrifice maintenant. Alors j'ai pris la responsabilité d'offrir un sacrifice à Dieu maintenant. Et c'est ce qui entraînera sa chute. La question, c'est à quoi notre regard, votre regard à vous, est-il sensible? Est-ce qu'il est sensible à une jolie femme? Un bel homme? À des euros sur un compte? Ou dans la main? Un verre d'alcool? Une cigarette? Un bon plat pour les gourmands? Un film ou des images porno? La voiture ou la maison du voisin? Ou quelque chose qu'il possède? Et on se dit, oh, comment ça se fait que lui, il possède, puis que moi, j'arrive pas à l'avoir. L'admiration des autres pour un tel dans l'église, ou dans le travail, ou dans les relations de manière générale. Le regard des autres sur nous, cet homme ou cette femme, qui est vraiment mal habillé, qui vraiment est loin de nos valeurs à nous, et qu'on juge. Comment gérons-nous ce regard sur toutes ces situations qu'on vient d'évoquer? Est-on conscient de voir les choses? Alors, j'imagine qu'on croit certainement que oui, qu'on a la sagesse pour en être conscient, pour pouvoir le gérer, pour pouvoir le maîtriser. Quand on est conscient, est-ce qu'on arrive à détourner le regard? Ou est-ce qu'on se rassure en disant « ce n'est pas très grave ». Ce n'est qu'un regard. Et grâce à la connaissance du bien ou du mal, nous sommes en mesure d'évaluer directement, correctement les risques et les maîtriser. Ou est-ce que ça a des conséquences sur notre façon d'agir derrière? Est-ce que ça va plus loin que notre regard, avec de la convoitise, du rejet, de la haine, de la colère, de l'envie? C'est quoi l'impact de ce regard? Et dans notre exemple, patatras, c'est la catastrophe, ce qui ne devait jamais arriver, arrive. Tout ça parce que nous avons, parce que Ève, mais on peut dire nous aussi, souvent, quand nous avons chuté, c'est que nous avons laissé les mots transformer notre regard. Les mots, les mots. Ils sont partout, dans ce qu'on lit, dans les médias, de manière générale, avec ce qu'on a là, la télé, ce qu'on entend à la télé, dans les podcasts, dans nos discussions aussi, puisqu'on s'alimente de nos réflexions, de nos idées, et tous les sujets de libéralisme, de sexualité, de nationalisme. Et tout ce qu'on entend, c'est comme l'intelligence artificielle. Quand la transformation ou la manipulation est grosse, on se dit « pas de problème, ah, ça c'est un fake, une fausse information », et on n'en prend pas en compte. Par contre, c'est beaucoup plus difficile quand c'est des petites transformations, des petites manipulations qui ne sont pas perçues comme vraiment des fausses informations, mais qui viennent polluer le message, qui viennent polluer notre clairvoyance. Et je trouve, pour ma part en tout cas, que c'est très compliqué d'avoir un regard juste, complètement porté, du moins juste, sur des sujets complètement portés par notre société, notamment tout ce qu'on vient d'évoquer, le libéralisme, le nationalisme, la sexualité et bien d'autres encore, parce que nous baignons dans cette société et que, on le voit bien, les chrétiens d'il y a 20 ans n'étaient pas les mêmes chrétiens qu'il y a 50 ans, qui n'étaient pas les mêmes chrétiens d'il y a 100 ans et qui n'étaient pas les mêmes chrétiens d'il y a 2000 ans. Parce que nous sommes dans la société. Et les chrétiens d'il y a 2000 ans ne pourraient pas vivre aujourd'hui. J'ai du mal à voir comment. Mais ce qui est important, c'est comment, malgré cette transformation globale, on arrive individuellement aussi, et collectivement dans l'Église, ne pas se laisser tromper par les mots et que ça n'ouvre pas des portes de notre être intérieur qui nous pousserait à céder à la tentation. La question qui vient, c'est « et après ?» Ok, bon, c'est fait, ça c'est... Malheureusement, ça s'est fait. Et après ? Et après ? Allô ? Satan ? Allô ? Où est Satan ? Il est où ? Il n'y a plus personne. Il n'y avait qu'une solution pour Satan d'éloigner Adam et Ève de Dieu. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais une fois qu'ils en ont mangé, Satan est parti à vaquer à d'autres occupations. Tout l'intérêt qu'il leur portait au début du récit a disparu. Le côté amical. Ah bon, vous n'avez pas le droit à laisser la place au silence et à l'abandon. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand Satan semble s'intéresser à nous, prendre en compte notre situation en pointant du doigt les manques, les semblants de manque, les injustices, les limites fixées, en floutant la limite entre le bien et le mal, quand Satan s'appuie sur ce semblant d'intérêt et qu'il nous fait miroiter de belles perspectives en transformant la vérité ou en tout cas en omettant d'autres, toutes les conséquences, il n'a qu'un seul objectif, nous éloigner de Dieu. Un seul objectif, nous éloigner de Dieu. Il ne veut pas devenir notre ami. Et ça, c'est le point clé. Il ne veut pas devenir notre ami. Son seul objectif, nous éloigner de Dieu. Car une fois que c'est fait, il nous abandonne, nous ne l'intéressons plus. Et que se passe-t-il? Dans quel état nous laisse-t-il? Ça y est, le pas est franchi, le fruit est mangé, les yeux s'ouvrent sur les conséquences de ce que nous avons fait. La question est comment faire pour que Dieu et que les autres ne voient pas. Et on le voit au verset 7. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Dans ce cas-là, ils ont trouvé un artifice pour cacher ce qu'ils venaient de découvrir, leur nudité. Mais le processus est le même, hein, et on le voit sur l'image. Il y a se cacher notre erreur, et puis cuire. Et je pense qu'on connaît tous cette mécanique de protection, de fuite, à un moment donné où on a fait une bêtise. Alors peut-être plus quand on était petit, enfant, que quand on est adulte. Normalement, on fait moins de bêtises, mais les bêtises sont pas forcément plus petites quand on est adulte. Mais voilà, ce désir de cacher. Et oui, Satan a gagné. Enfin, c'est gagné pour lui. Il a réussi son pari. Le pire, c'est qu'avec cette connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose qui s'invite maintenant dans la situation, dans l'équation. C'est la culpabilité. Alors vous allez me dire, la culpabilité, c'est une bonne chose. Ah oui, oui, elle a du bon, effectivement, car elle permet de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur, qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais malheureusement, elle peut avoir aussi un aspect plus pervers, encore, car elle peut aussi continuer à nous éloigner de Dieu. Parce que cette voix qui tourne, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. Tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu n'es pas digne de lui parler. Tu n'es pas digne de... Hein, cette boucle infernale. Et ça, on le retrouve dans la Bible. On a deux exemples qui montrent que la culpabilité, elle peut avoir du bon, mais elle peut être aussi néfaste. On a d'un côté Pierre, qui renie Jésus trois fois en public quand même, ce qui n'est pas rien, qui pleure amèrement en se rendant compte qu'il est allé trop loin, et qui proclame trois fois Jésus qu'il l'aime et qui va retrouver sa place, qui va avoir un rôle important dans la propagation de l'évangile. Et de l'autre côté, nous avons Judas, qui livre Jésus aux autorités, qui se dit « Ah, je me suis peut-être trompé », qui veut rendre l'argent en se rendant compte qu'il est allé trop loin. Mais lui, malheureusement, il se suicide rongé par sa culpabilité. Il n'a pas réussi à sortir de ce cercle infernal. Et on voit qu'un même sentiment a deux effets. Alors, la gestion de ce sentiment de culpabilité pourrait être un sujet à part entière. Et je ne vais pas l'aborder complètement ce matin. Et je vais passer plutôt à la question suivante qui m'intéresse aujourd'hui par rapport... c'est où est Dieu ? On a vu où était Satan. On a vu ce qu'a fait l'homme se cacher. Et Dieu, il est où ? Genèse, versets 8 à 10. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Moi, je trouve ce passage quand même incroyable. Dieu revient voir Adam et Ève. Bon, ne soyons pas naïfs. Hein. Dieu sait pertinemment ce qu'ont fait Adam et Ève. Et il leur pose une question. Il pose la question à Adam. « Où es-tu ?» Comme si il ne savait pas où ils étaient. Dieu sait toutes choses. Il sait où sont Adam et Ève. Mais il pose la question. « Où es-tu ?» Dieu connaît le moindre de nos gestes, la moindre de nos pensées. Et tout ce qui est bon, il connaît tout ce qui est bon, mais comme il connaît tout ce qui est mauvais. Et malgré cela, Dieu vient nous voir tous les jours de notre vie. Et je pense qu'il nous pose à tous la même question. Où es-tu ? Que répondons-nous à cette question ? Comme Adam et Ève, j'ai eu peur car je suis nu, je me suis caché. Alors, nous avons des habits, on est habillé. Alors, sauf si vous faites vos moments de prière nus et puis que vous dites « Attends, je vais m'habiller avant », mais ça dépasse cette nudité-là. C'est comment nous voyons-nous devant Dieu ? est-ce que nous voyons nus et qu'on se dit « Oh là là, s'ils voyaient tout ce qu'il y a dans ma tête et puis tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que... ça va pas le faire, donc je vais remettre des couches. » Alors, Adam et Ève, c'était une feuille de figuier. Nous, peut-être que c'est d'autres choses. Ça peut être des bonnes œuvres en se disant « Ouh là là, c'est bon, j'ai donné ma dîme, j'ai fait... j'ai vu un pauvre ce matin, je lui ai donné une pièce, j'ai aidé un tel, et puis j'ai aidé machin, et puis j'ai fait ceci, puis j'ai fait cela. C'est bon, j'ai fait ma liste, maintenant je peux me présenter devant Dieu. J'ai mis ma petite feuille de figuier pour que on puisse parler ensemble. » On peut aussi se cacher derrière de l'activisme religieux. Alors, cette semaine, j'ai fait toutes les réunions de l'Église. J'ai fait la louange, la prière, l'étude biblique, le culte. Il y avait encore une autre réunion dans une autre église. J'y suis allé. Moi, je suis à fond. C'est bon, je peux me présenter devant Dieu parce que j'ai fait tout ça. Et puis, il peut y avoir aussi du puritanisme en s'appuyant sur notre intelligence. Eh ben, moi, je n'ai pas fait ceci, ceci. Alors, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé de cigarette, j'ai pas regardé de femmes, j'ai pas regardé d'hommes, j'ai pas regardé la télé. Bon, c'est parfait. Je peux me présenter devant Dieu aussi parce que je suis pur. Par contre, les autres, oh là là, quand je les vois qui font tout ceci, ils sont pas vraiment top, hein. Comme les pharisiens, quoi. Et pourtant, alors ça fait mal d'entendre ça. Et je suis toujours ébranlé quand je lis la Bible, de voir comment Jésus a traité les pharisiens qui sont définis dans l'Ancien Testament comme les garants de la pureté quand même, du peuple, et qui font donc leur boulot de dire « attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », avec la connaissance qu'ils avaient à l'instant T. Mais bon, soit dit en passant, hein, comme nous, on se met des garde-fous un peu partout pour se dire « voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Mais ce qui est bien pour un tel, c'est pas forcément mal pour un autre. C'est quoi les limites de tout ça, hein, dans notre quotidien? Et je suis toujours ébranlé aussi de voir aussi la place de David dans le cœur de Dieu. Alors qu'on peut pas dire que ça soit quelqu'un de parfait, voire pire, vu tout ce qu'il a fait. Je pense que si on prend tout ce qu'on a fait tous ensemble, on lui arrive pas à la cheville. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et pas tant, hein. Mais parce que... Alors, et je pense... Je dis parce que... Je pense pas avoir les bonnes réponses non plus. Parce que Dieu seul, pourquoi il était suivant son cœur. Nous, ce qu'on dit en tant qu'homme pour se rassurer, c'est parce qu'il reconnaissait son péché, parce que il reconnaissait que Dieu était le plus grand. Peut-être qu'il y avait d'autres choses aussi. Et on le voit... On ne le connaît qu'à travers les psaumes qu'il a pu écrire, l'amour qu'il avait pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passait dans son cœur. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que on arrive à avoir la même simplicité, le même amour pour Dieu, et que Dieu, pas les autres, pas vous, pas moi, mais vraiment Dieu puisse dire, il a un cœur, il est suivant mon cœur, parce que il se met à nu devant moi. Et il vient pas parce qu'il a fait plein de choses ou parce qu'il n'a pas fait plein de choses, mais simplement parce que je suis son Dieu. Et si on doutait que Dieu était notre ami, après l'épisode, si certains en doutaient encore, il n'y a plus de doute à avoir après l'épisode de la croix. Dieu est un véritable ami. Il veut être notre ami. Il veut être en relation avec nous, enlever les barrières qui sont entre lui et nous. Et pour ça, il n'a pas hésité à donner son Fils unique pour que cette relation originelle puisse perdurer. Et ça, c'est quand même incroyable, et on l'a célébré avec la scène, tu nous l'as rappelé Luc. C'est quand même si c'est une routine, c'est quand même à chaque fois incroyable de se dire que Dieu veut garder la relation avec nous et qu'il a donné son Fils pour nous, pour ça. Alors, pour terminer, première chose, c'est que Satan ne veut pas être notre ami. Même s'il nous fait miroiter plein de choses, la seule chose qu'il souhaite, qui pourrait être pour notre soi-disant bien, la seule chose qu'il souhaite, c'est nous faire tomber, c'est nous éloigner de Dieu. Par contre, l'autre certitude, c'est que nous avons un ami véritable. Un ami véritable qui veut être en relation avec nous. Et pas comme Facebook où on met des likes ou des pas likes, non. Quelqu'un qui veut prendre le temps de s'asseoir, de discuter, d'échanger, de savoir comment on va vraiment, de savoir ce qui se passe au fond de nous-mêmes, qu'on puisse lui partager vraiment tout ce qu'on pourrait cacher, ou tout ce qu'on veut cacher, en tout cas, à ceux qui sont autour de nous. Et avec cette question qui nous est posée, derrière quoi nous cachons-nous? Où sommes-nous cachés? Est-ce qu'on se cache à l'église? Est-ce qu'on se cache derrière nos bonnes œuvres? Est-ce qu'on se cache derrière notre puritanisme? Toujours est-il que Dieu veut nous avoir dans notre plus grande simplicité. Et je prie pour que, moi en premier, je puisse avoir cette simplicité de venir devant Dieu tel que je suis et que je puisse le louer jour après jour pour tout ce qu'il fait quand ça va bien et quand c'est aussi plus difficile. Amen.